Voilà, bonjour à tous. La pensée que j'avais reçue pour ce matin, un peu particulière pour notre Église, mais aussi en vue de ce qu'on va partager tout à l'heure, c'était un parallèle entre l'Église aujourd'hui et le peuple d'Israël dans le désert. Vous savez sans doute, on peut lancer le PowerPoint, vous savez sans doute que le chemin qu'a pris le peuple d'Israël après la sortie d'Égypte pour aller au pays de Canaan n'était pas le chemin le plus court. Et pour ceux qui voient donc sur une carte, ça va, vous la voyez bien ? Ouais, c'est pas... Vous pouvez vous approcher si jamais. Vous reverrez là, sur le streaming, on verra mieux. Donc, on voit que le peuple d'Israël qui sort du pays d'Égypte va pas prendre le chemin qui va longer la côte et la mer, qui serait le chemin le plus court. Dieu va pas conduire son peuple par ce chemin-là pour arriver chez les Philistins et puis conquérir le pays, mais va prendre un tout autre chemin. Un chemin assez long quand même, hein, et surtout, toute cette péninsule du Sinaï, c'est désertique. Donc imaginez qu'il emmène ce peuple dans ce désert et jusqu'au mont Sinaï où la loi lui sera donnée. Et après, ils vont se plaire dans le désert, je ne sais pas pourquoi, mais ils vont passer encore 40 ans dans le désert à tourner, voilà, avant de remonter et de passer le Jourdain. Vous voyez que c'est un chemin assez long et assez particulier, pas tellement rationnel. Le peuple d'Israël, quand il est revenu, donc là on fait un bond en avant de plusieurs siècles, quand il est revenu de captivité à Babylone, qu'ils ont reconstruit le temple, qu'ils ont, dans le livre de Néhémie, on voit que le peuple s'est rassemblé et ils ont publié un jeûne et ils ont confessé leurs péchés et ils se sont souvenus de tout ce que Dieu avait fait par le passé. Et tout le chapitre 9 de Néhémie nous parle un petit peu de toute la bienveillance et la bonté de Dieu, alors que le peuple d'Israël a rejeté son alliance, a des fois été désobéissant, on dit que le peuple avait la nuque raide, mais ils font vraiment tout un historique de tout ce que le peuple d'Israël a vécu, même pendant les rois, et comment Dieu a toujours manifesté sa bonté, comment Dieu a été lent à la colère et riche en bonté. Et c'est un temps de confession des péchés, un temps de jeûne par tout le peuple. Et j'aimerais, dans cette histoire qui est énumérée, vous pourrez lire tranquillement à la maison, ils reviennent sur la période où ils sont dans le désert, justement, le peuple d'Israël. Et il y a trois choses que j'aimerais relever avec vous ce matin, courtement. Il y a, dans ce temps où le peuple était dans le désert, il y avait ce miracle de la manne. Imaginez, ce pain tous les jours qui descend du ciel. Ils ont vécu de ce miracle. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi l'eau qui a abreuvé le peuple dans ce désert. Cette eau qui est sortie du rocher. Et encore, quelque chose d'encore de plus extraordinaire, c'est la nuée. La nuée qui était pendant le jour, qui conduisait le peuple. Et pendant la nuit, c'était le feu. Voilà, donc on va juste regarder dans Néhémie 9 ces éléments que je viens de vous citer. On lit ensemble le verset 11. « Tu as fendu la mer devant eux. » Donc on est dans le passage de la mer Rouge. « Et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu as précipité dans l'abîme. Mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes, ceux qui marchaient à leur poursuite. » Vous imaginez, bien sûr, l'armée du Pharaon. « Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils allaient suivre. » Et on lit un peu plus loin le verset 15. « Des cieux, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. » Et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Incroyable. Ce qu'ils relèvent là rapidement, dans plein de choses qui sont partagées, hein, on pourrait relire. Je suis étonné du chemin que Dieu a fait prendre au peuple d'Israël. Ce n'est pas un chemin facile. C'est peut-être que le long de la mer, il y avait peut-être plus de verdure, plus de possibilités de pêcher du poisson et de se nourrir. Mais Dieu a fait prendre un chemin étonnant dans le désert à ce peuple. Et dans ce chemin qu'il a pris, pourquoi Dieu a fait-il cela? Je me suis posé la question. Je pense que s'ils avaient pris le chemin le plus court, dans l'élan de la sortie d'Égypte, ils n'auraient pas été prêts pour combattre et pour entrer dans le pays promis. Je pense que parfois, nous nous sentons prêts et nous aimerions des fois prendre le chemin le plus court, en tant qu'Église ou même personnellement. Ou parfois, on aimerait prendre un raccourci avec Dieu. Mais le Seigneur dit non, non, on ne va pas passer par le chemin dont tu penses, toi, qui rationnellement est le plus logique et le plus évident. Non, le Seigneur va dire, on va passer par un autre chemin, plus long et plus difficile. Quoi ? Est-ce que j'ai bien compris, Seigneur ? Et le Seigneur entraîne son peuple, le pousse quelque part dans un lieu hostile, où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture. Hein, pour ceux qui, je sais que Mathurin, tu aimes les déserts, si jamais... Mais je ne sais pas si tout le monde aime les déserts comme Mathurin. Parce que moi, je trouve qu'il fait un peu chaud, qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres pour se mettre à l'ombre. Il faut bien penser à ses victuailles. Il faut être prêt au mode survie. Et surtout, dans un désert, on peut se perdre. Et l'immensité du désert, c'est quelque chose quand même. On peut se perdre rapidement. Il n'y a pas un arbre pour se repérer. Moi, j'étais épaté des pygmées, le peuple pygmée qui vivait, le peuple de la forêt que mon père a rencontré, a annoncé l'évangile. C'est incroyable, ils peuvent se promener dans la forêt équatoriale sans GPS. Imaginez la forêt équatoriale hein, qui déborde sur plusieurs pays, hein, le Cameroun, le Congo, le Centrafrique, et c'est immense. Quand vous rentrez dans la forêt équatoriale, il faut être sûr de pouvoir en sortir. Et vous avez intérêt d'avoir un GPS. Et les pygmées, sans GPS, sans rien, ils arrivent à se repérer dans la forêt. Déjà, ils sont plus petits, ils sont adaptés à la forêt, à leur environnement, parce qu'ils peuvent se faufiler. Mais surtout, ils ont des techniques pour se repérer. Ils cassent des branches d'arbres, ils ont des repères, parce que dans la forêt, il y a de quoi se repérer. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent, et qu'ils vont chasser des fois très loin, et qu'ils retrouvent leur chemin. Mais je me demande si un pygmée dans un désert pourrait s'y retrouver. C'est une question que je me pose. Je ne suis pas sûr. Voilà que dans ce désert, on peut se perdre. Et à l'époque du peuple d'Israël, il n'y avait pas le GPS ni même Google Maps. Il n'y avait pas encore Starlink avec Elon Musk où on peut avoir de la connexion sur toute la Terre. Ce n'était pas encore le cas. Mais ils avaient mieux que Starlink et mieux qu'Elon Musk. Ils avaient le Seigneur. Ils avaient le Seigneur qui les conduisait par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. C'est stylé quand même, comme disent les jeunes. Moi, j'aurais voulu voir ça. Je ne sais pas vous, moi j'aurais voulu voir ça. Mais au-delà de ce que je vous partage, je pense que le désert, c'est le lieu par excellence de la dépendance de Dieu. La dépendance d'avec Dieu. Et avant de combattre les géants de Canaan, Dieu a voulu rapprocher son peuple de lui. Quoi de mieux que le désert où il n'y a rien ? Quoi de mieux qu'un lieu où tout est dépouillé, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction ? Et il a voulu prendre ce peuple avec lui. C'est vrai que le peuple d'Israël avait vu la puissance de Dieu en Égypte. Ils avaient vu les miracles de Dieu en Égypte. Ils avaient vu qui il était, mais ils ne le connaissaient pas. Ils avaient vu sa puissance, c'est tout. Mais ils ne connaissaient pas ce Dieu. Ce Dieu qui s'était révélé à Abraham, Isaac et Jacob, ce Dieu qui avait envoyé Moïse, qu'ils ne connaissaient pas encore sous son nom, sur Yahvé, le nom qu'il a révélé à Moïse, qui était nouveau à ce moment-là, ce peuple ne le connaissait pas. Donc Dieu l'a pris avec lui et a marché avec ce peuple, a fait un bout de route avec lui. Quoi de mieux que de marcher avec Dieu pour le connaître. Et il a pris le temps. Il a pris le temps de les prendre avec lui, de les abreuver. Il a pris le temps de les nourrir. Il a pris le temps de les guider. Il a pris le temps de leur donner sa loi au Mont Sinaï, de leur donner ses prescriptions, qui va leur donner leur identité, qui va faire connaître aussi qui est Dieu, quelle est son identité, qui est ce Dieu qu'on suit. Et je pense que parfois, l'Église, je pense même toujours, l'Église est comme le peuple d'Israël. On veut vite vivre et partir au combat. On veut vite vivre des batailles et des victoires, des percées spirituelles. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Nous, on pense qu'on est prêt. Mais Dieu dit non. Tu n'es pas prêt. Tu es immature. Tu risques de faire des dégâts. Vous avez déjà vu un enfant, si vous lui donnez une épée pour se battre, il va faire du dégât sur les gens autour de lui, mais sur lui-même aussi. On ne peut pas donner trop de puissance à quelqu'un qui ne peut pas le gérer. Et ça a dû être long, long pour le peuple, ce temps-là. Ils ont marché, ils se sont arrêtés, ils ont attendu. Si on regarde dans Nombre, au chapitre 9, versets 15 à 23, on ne va pas tout lire, mais c'est la description de ce qui se passait avec cette nuée la jour et le feu la nuit. Voilà ce qui est dit, on peut lire, lisons peut-être le verset 17. « Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. » C'est un peu lourd comme ça, le texte, mais c'est pour montrer cette dépendance. C'est une répétition volontaire de l'auteur inspiré. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élève le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les Israélites campaient et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Je crois que c'est assez clair. Hein. Si vous n'avez pas compris, vous voulez que je vous relise ? Tac, tac. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu la situation d'un peuple de milliers de personnes qui vit ça. Imaginez un petit peu. La logistique qu'il a dû avoir et de suivre le rythme de Dieu, c'est quand même quelque chose. Des milliers de personnes qui installent leur campement 24 heures après, il faut tout enlever et repartir. C'est dingue. Il y a dû avoir des réactions dans le peuple étonnantes. Moi, je ne sais pas. J'essaie de me mettre à la place de quelques personnes, quelques situations qui se seraient peut-être passées. Je ne sais pas. Alors, la nuée reste 24 heures. Et au bout de 24 heures, il faut repartir. Quoi ? Je viens de monter ma tente, là, pour ma famille de 25. Et quoi, Seigneur ? T'es sûr ? Il faut repartir maintenant ? Non, mais ça ne va pas. 24 heures ? Non, mais t'exagères quand même, Seigneur. Non, moi, je reste. Et s'il reste, qu'est-ce qui se passe ? Plus de pain, plus d'eau, plus rien. Il est obligé un peu de partir. S'il veut survivre. OK, autre situation. Si la nuée reste une année. Ah, ça, c'est mieux, une année. Et puis qu'on doit partir. Ah non, Seigneur. Quoi ? Mais j'ai mis un temps fou, j'avais trouvé ce petit coin, j'ai mis 6 mois à le trouver parce que j'ai beaucoup bougé. Puis là, je me suis bien installé, Seigneur, tu vois, et j'ai creusé même sous ma tente dans la terre pour que dans les heures chaudes, je sois au frais. Oh, si on part maintenant, tout ce travail pour rien, quoi. Je devrais refaire ça et en plus, si on s'arrête encore 24 heures une autre fois, ça ira pas. Troisième type de réaction. Ça fait 6 mois que le peuple est là et qu'il y a la nuée. Et puis, la nuée ne bouge pas. Quoi ? Seigneur, on ne va pas moisir ici encore. Ça fait 6 mois qu'on est là, il faut qu'on bouge un peu. J'en ai marre, c'est toujours le même paysage, toujours la même chose que je vois autour de moi. Comment ça se fait, Seigneur ? Et puis, il faut qu'on aille conquérir un peu ce pays, quoi. Il faut qu'on y aille. Ça, c'est les évangélistes qui veulent aller changer le monde. Allez, là, Seigneur, fais-les bouger un peu. On y va, Seigneur. Tu as dit qu'on avait un pays à combattre. Alors, non, Seigneur. Pas encore un jour de plus. Ça fait 6 mois, là, ça suffit. Bon, on pourrait prolonger et multiplier les exemples. J'essaie de vous faire sentir que le peuple était obligé, tellement dépendant de Dieu pour survivre dans ce désert, t'es obligé de suivre le rythme du Seigneur. Obligé. Et je pense que ce temps, ça a été un temps de préparation pour le peuple. Ça a été un temps où le cœur du peuple a été travaillé. La patience du peuple a été travaillée. L'identité du peuple a été travaillée. Et surtout, ça a permis au peuple d'Israël d'écouter la voix de Dieu et de lui obéir. C'était un entraînement pour le pays promis. Parce que je peux vous assurer que s'ils étaient dans la bataille et qu'ils n'ont pas appris à entendre la voix de Dieu à ce moment-là, là, c'est fatal. Là, ils étaient dépendants de Dieu. Donc Dieu est bon, il allait les nourrir. Mais quand tu es en combat avec un peuple et que tu es plus dans cette dépendance de Dieu, c'est fatal dans les mains de l'ennemi. C'est ta tête qui est coupée. Tant que c'est dans les mains de Dieu, Dieu est bon. Il prend soin de nous dans le désert. C'était un temps de préparation. Ce n'était pas un temps perdu. On peut penser des fois qu'on perd du temps avec Dieu. C'est jamais perdu quand c'est avec Dieu. C'est toujours bénéfique. C'est l'entraînement des guerriers. Est-ce que nous ne ressemblons pas un petit peu à ce peuple d'Israël, nous l'Église ? On est en route et on est bien insignifiant et fragile. Moi je me dis, ce peuple, t'es bien fragile dans ce désert. Ça ne tenait pas à grand-chose. Si Dieu avait décidé de ne plus donner de la manne, de l'eau et de les conduire, ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Et parce qu'un désert, c'est hostile, je l'ai dit, et notre survie, nous en tant qu'Église, elle dépend du Seigneur. Je pense que l'homme, dit Jésus, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Église ne vit que par la parole et la grâce de Dieu. C'est ça le fondement de l'Église. Et l'Église a besoin du pain qui descend du ciel. Et c'est qui le pain qui descend du ciel ? C'est Christ. Jean 6, je suis le pain qui descend du ciel. On a besoin du rocher qui a été frappé, à savoir Christ, et qui nous donne, qui étanche notre soif, qui nous donne cette nourriture. Et nous avons besoin de la nuée, la présence de Dieu. Et la nuée, c'était souvent aussi le moment où Dieu se manifeste. C'est dans la nuée qui parle à Moïse, qui donne la loi. C'est dans la nuée qui parle aussi. Donc la nuée, c'est vraiment l'image de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous guide. Amen. C'est ça la nuée. Et l'Église a besoin non seulement de voir la nuée, mais de la suivre et d'y obéir. Si on arrête de suivre la nuée et la présence, si on arrête d'obéir à ce que Dieu nous dit, quand il nous dit, ben là, il faut y aller, on meurt. L'Église meurt. Nous voulons être une Église qui vit de la parole de Dieu seulement parce que notre survie dépend de lui. Et si on arrête de le suivre, on meurt de faim, on meurt de soif et on se perd. Combien de gens se sont perdus ? Combien de gens ont marché dans l'Église ? Et à un moment, ils ont dévié. Ils n'ont plus suivi la nuée. Et aujourd'hui, où ils sont ? Ils sont perdus. Ils ont besoin de retrouver le chemin de l'Église, de se réincorporer dans le peuple de Dieu. Je terminerai avec une image. Parce que j'ai déjà bien dépassé mon temps. C'est moi qui ai fait le timing, mais je ne m'y soumets pas, c'est terrible. Mais je pense que c'est bien que je termine juste avec cette pensée. L'Église que nous sommes, et notre Église aussi locale, ici à Bussigny, l'Église est comme ces de hobbits. Vous les connaissez un petit peu. C'est Le Seigneur des Anneaux, le film, donc je veux m'inspirer de cette image. Dans cette histoire, il y a une guerre qui se passe entre des puissants. Des puissants royaumes qui s'affrontent. Une guerre où on se demande si le mal va gagner ou si c'est le bien qui va gagner. La partie est serrée. Et dans cet environnement terrible, hostile, de guerre, compliqué, on a deux petits hobbits inoffensifs qui se baladent, qui traversent toutes les contrées pour aller jeter l'anneau de pouvoir dans la montagne du destin. Et ces deux petits hobbits, c'est par leur acte, ces deux petits hobbits insignifiants, fragiles, totalement à la merci, vraiment qui échappent chaque fois de justesse à la mort. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais au final, ils arrivent, et c'est un travail aussi d'équipe, on le voit, ils arrivent à jeter cet anneau dans la montagne du destin. Et c'est la mort de l'ennemi juré, Sauron, le prince des ténèbres, ainsi que son armée. Alors, pour faire un parallèle avec notre Église, nous sommes ces petits hobbits. Je suis désolé, vous n'êtes pas des vaillants héros aujourd'hui, des guerriers magnifiques, vous êtes des petits hobbits ce matin. Et l'Église est parfois ce petit troupeau qui n'a pas beaucoup de pouvoir et de prestance, parfois sociale, parfois humaine. Elle est insignifiante aux yeux du monde et des puissants de ce monde. Mais contre toute attente, elle triomphe à la fin. Car son pouvoir, son identité est en Dieu et en lui seul. Et comme Dieu est tout-puissant, comme Dieu est victorieux, elle triomphe avec lui. Amen. Par grâce. Et ce petit groupe de personnes, les chrétiens, qu'on peut persécuter, qu'on peut détruire facilement comme de rien, porte à son cou le seul et unique anneau, l'anneau du fiancé, de la fiancée avec le fiancé, Jésus, et surtout l'anneau de l'évangile. Et c'est en gardant cet évangile pur et en ne portant que cela et pas d'autre chose, pas d'autre fardeau, en gardant notre cœur pur, que Dieu élèvera cette Église et lui donnera plein pouvoir. Parce que dans le monde à venir, l'Église régnera sur le monde et sur tous les puissants. La Bible dit même que nous jugerons les anges, des gens supérieurs en autorité et en puissance au-dessus de nous. Dieu nous permettra de les juger. Incroyable, incroyable, dénouement final. Alors, notre seule mission, c'est de rester fidèle à notre Dieu, toujours assoiffé de sa présence, toujours en ayant faim de sa parole et en étant obéissant à la voix de son esprit qui nous guide dans ce désert qu'est ce monde hostile. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel que tu nous fais ce matin. Nous voulons juste nous taire devant toi. Juste regarder à toi ce matin, maintenant, personnellement et en tant qu'Église. Je propose juste qu'on se place devant le Seigneur, qu'on prenne un temps d'écoute, qu'on laisse descendre cette pensée. Le Seigneur est là ce matin. Nous sommes son peuple et il est présent par son esprit.